France Info.
L'émission politique de France Info, bienvenue. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nicolas.
Bonjour à Guy Berenbaum, Gilles Bornstein qui sont avec nous à quelques heures du dernier débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire. On va évidemment parler de la gauche et de la présidentielle.
Oui, avec vous Aurélie Filippetti, bonjour.
Bonjour.
Vous soutenez Arnaud Montebourg dans cette campagne, donc Nicolas l'a dit, le premier tour de scrutin a lieu dimanche, la primaire de la Belle Alliance Populaire. Et Arnaud Montebourg était en meeting hier soir à Paris, on l'écoute.
Oui, je suis le candidat de la feuille de paix, de la feuille de soins, de la quittance de loyer, du relevé de pension. Parce que c'est la première condition à remplir pour assurer sa liberté.
Alors, il y met beaucoup du sien, on le voit, Arnaud Montebourg, dans cette campagne, mais visiblement, les gens qui regardent, les sondages, est-ce qu'il faut croire les sondages? Sans doute pas. Disent que peut-être Benoît Hamon, de manière inattendue, viendrait le concurrencer dimanche dans les urnes. Est-ce que vous êtes inquiète, Aurélie Filippetti?
Hier soir, on a eu un grand discours de gauche, un discours qui rappelle que la gauche, elle est là, elle est bien là, elle existe, et elle ne demande qu'à s'exprimer dimanche. Donc moi, avant tout, j'appelle tous les gens qui sont de sensibilité de gauche.
Allez, vous en profitez,
à venir voter dimanche. Mais oui, c'est essentiel parce qu'il s'agit de choisir notre destin, notre avenir pour les années qui viennent. Donc
mais
vraiment,
beaucoup de gens
c'est important.
Que la campagne d'Arnaud Montebourg était un peu terne, que peut-être.
Bah, je crois qu'ils auraient dû venir au meeting hier soir.
Mais
d'ailleurs,
c'est
dommage que vous ne soyez pas venus, par exemple.
Ah oui, moi, je me suis
parce
couché
que
tôt.
Parce que parfois, quand on est trop dans la politique, comme nous tous, on est un petit peu blasé, un petit peu voilà, on a l'habitude de tout ça. Et il y a des moments, il y a quand même des grands moments en politique, des grands moments à la fois d'émotion et puis de réflexion. Eh bien, des discours comme ça, ça s'inscrit dans toute une grande tradition, dans une histoire, celle de la gauche, celle du mouvement ouvrier, celle des grandes luttes sociales,
vous
et
hésitez,
celle des grandes
vous
victoires.
Vous hésitez à citer des noms, hein, quand même. Vous
dans
avez,
la tradition non, mais, du discours du Bourget, par exemple.
Mais moi, je pensais à François Mitterrand, je pensais à Jean Jaurès,
voilà,
je pensais à Léon Blum.
Carrément.
Et
carrément
bah, oui, mais
on était à ce niveau-là.
Mais on était au gymnase Jean Jaurès. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en tout cas, nous, on s'inscrit dans cette tradition-là. C'est-à-dire une gauche qui parle, finalement, aux gens qu'elle doit représenter et défendre. Ce monde du travail, ou ce monde des gens qui cherchent un travail, ce monde des classes moyennes, ce monde des enseignants, des personnels de santé, de ces soldats blancs qui sont, par exemple, les gens qui travaillent dans les hôpitaux.
Et cette référence
aujourd'hui
au discours a inspiré une comparaison à Nicolas?
Vous dites discours d'émotion, il y en a eu de l'émotion en 2012 au Bourget, mon ennemi c'est la finance, il n'a pas de visage, il y avait de l'émotion déjà il y a 5 ans.
Mais justement, il s'agit de ramasser dans la terre le drapeau du discours du Bourget et de le brandir de nouveau fièrement, mais avec quelqu'un et avec une équipe aussi, de gens qui savent s'opposer aux puissants. Parce que finalement, qu'est-ce qui a fait la perte et la trahison du discours du Bourget? C'est le renoncement face au mur des puissants.
François Hollande est un traître.
C'est pas un traître, c'est
la
juste
trahison.
Quelqu'un qui a renoncé, qui a baissé les bras.
La trahison.
C'est une trahison par rapport à des engagements qui avaient été pris. Et il faut donc quelqu'un qui puisse incarner justement une capacité à renoncer. Et là, les gens qui vont aller voter dimanche doivent choisir aussi sur la cohérence d'un parcours et sur la cohérence d'un engagement. Donc, il faut rappeler tout ce que Arnaud Montebourg a fait depuis le début de sa vie politique, la lutte contre les paradis fiscaux. D'ailleurs, avec Vincent Peillon, il l'a rappelé, la lutte pour la 6e République, la lutte contre la corruption. Il avait fait un rapport sur les tribunaux de commerce.
Seul sur ce créneau de la gauche il y a aussi Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, il a réussi à préempter un thème, celui du revenu minimum d'existence. Est-ce que, comme Manuel Valls, vous diriez que c'est le droit à la paresse?
Moi, je ne suis pas dans un jugement moral sur le revenu d'existence. Simplement, deux choses. D'abord, moi, je souhaite qu'on règle vraiment les problèmes quotidiens des gens et les problèmes qui se posent. C'est quoi aujourd'hui le problème? Pourquoi est-ce qu'on a finalement 6 millions de chômeurs encore en France, 10% de chômage? Parce qu'on n'a pas réussi à créer de l'emploi. Si on dit aujourd'hui, on baisse les bras, on considère finalement il n'y aura plus de travail. Et on donne aux gens un revenu qui leur permet à peine de survivre parce qu'on considère que plus jamais on arrivera à leur donner du travail. Pour moi, ça ne vaut pas la peine
c'est
à ce moment-là de faire... Oui, c'est défaitiste. Et en plus, c'est irréaliste parce qu'on sait très bien qu'en plus, ça coûterait 400 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État. Le budget de la France, c'est 400 milliards. Donc, en gros, on promet quelque chose que l'on ne pourra pas réaliser. Et inversement, du coup, on se détourne des vrais sujets. Comment on relance l'économie? Par exemple, en défendant l'industrie. Il n'y a pas de fatalité à voir la perte de grandes industries qui partent à l'étranger. On peut se battre pour la relocalisation de certaines activités. Alors, on peut se battre pour, par exemple, les emplois aussi dans les territoires ruraux. Donc moi, je dis, si on fait le revenu universel, bon, soit très bien, ça peut être une idée intéressante intellectuellement, mais si jamais on faisait ça, il y a tout un tas d'autres choses qu'on ne pourrait pas faire.
L'irréalisme l'irréalisme de la proposition de
rien que pour les jeunes, Jean-Michel Apathy.
De Benoît Hamon.
Parce que Benoît Hamon a changé d'avis. Oui. Il a dit maintenant, ça sera pour les jeunes, 18-24 ans. Mais rien que pour les jeunes, 18-24 ans, ça coûterait 40 milliards. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 20 milliards.
On va écouter rapidement François Calfon, qui dirige la campagne d'Arnaud Montebourg et qui a stigmatisé la proposition de Benoît Hamon. C'était sur Europe 1 lundi. Écoutez.
Je vais appeler ça simplement la gauche carambar. C'est-à-dire, vous ouvrez un paquet de carambars, vous voyez une idée, elle est originale, sans doute, irréalisable, certainement.
Benoît Hamon, gauche carambar. Vous reprenez la formule à votre compte?
Pas du tout, non, mais bon, c'est,
vous la reprenez pas à votre compte?
Non, je la reprends pas.
Vous aimez pas cette manière de parler des gens?
Mais voilà,
il dirige la campagne pourtant.
Chacun a droit chacun a droit à faire un dérapage, c'est pas, voilà.
Un dérapage.
Mais bon, pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est de dire, voilà, on a un candidat, Arnaud Montebourg, qui a un programme qui est très ambitieux, très volontariste, mais très réaliste. C'est le seul de tous ces candidats qui est un programme chiffré en matière économique et budgétaire. Ça a été relevé par des journalistes, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des soutiens d'Arnaud Montebourg.
Et on a bien compris, Aurélie Filippetti, que le chiffrage, ça serait un des grands thèmes du débat de ce soir. On en reparle dans un instant. D'abord l'info. À 8h40, Victor Maté.
Avec un accostage réussi ce matin à Bastia pour un navire de la compagnie Corsica Ferries, ses 237 passagers et membres d'équipage étaient bloqués en mer depuis près de 24 heures à cause du vent et de la houle. Agité ou pas, le dernier débat de la primaire de la Belle Alliance Populaire avant le premier tour dimanche, ce soir, les 7 candidats parleront emploi, sécurité, justice ou encore santé. Vers un nouveau géant mondial dans le secteur de l'équipement des avions, Safran lance une OPA amicale sur Zodiac Aerospace, un rachat de 8,5 milliards d'euros. Les deux groupes sont français. L'industrie qui est au menu de la mini-tournée de 2 jours de François Hollande dans les Ardennes et les Vosges, une façon de défendre le bilan de son quinquennat. Lui aura passé 8 ans à la Maison-Blanche, dernière conférence de presse hier soir pour Barack Obama, le président américain qui réaffirme qu'il s'exprimera publiquement à l'avenir si les valeurs fondamentales de l'Amérique sont en jeu. L'investiture de Donald Trump a lieu demain. Et puis, plus que quelques heures avant la victoire d'Armel Lecléache dans le Vendée Globe, arrivée prévue au Sable d'Olonne en toute fin d'après-midi.
France Info. Aurélie Filippetti, soutien d'Arnaud Montebourg, invité politique de France Info. On va revenir, Aurélie Filippetti, sur cette question du chiffrage des projets des candidats de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Vous avez parlé de trahison il y a quelques minutes. Au Bourget, pas seulement, Gilles Bernstein.
Florange aussi, qui demeure le symbole de la rupture entre Arnaud Montebourg et François Hollande, et vous d'ailleurs. Notre reporter Arnaud Etoandeg était sur place. Écoutez bien le son qu'elle a recueilli.
Les politiques, ils me sortent par les trous du nez. Il n'y a que des menteurs, des tricheurs. Donc, si je peux mettre le bordel, je vais faire. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, il n'y a qu'un seul moyen pour foutre le bordel. Il faut voter Front National. Je hais les idées du Front National, je ne peux pas les voir, mais je vais faire ça exprès.
C'était évidemment Sandrine Etoandeg et pas Arnaud Etoandeg. Que pensez-vous de ce qu'elle dit?
De ce que dit cet électeur, je hais le Front National, je vais voter pour lui.
Mais vous entendez ça dans votre circonscription?
Mais bien sûr, mais non seulement on l'entend, mais on l'a subi aux élections municipales. Je vous rappelle que la ville de Hayange, une grande ville de gauche, où se trouve d'ailleurs Léo Fourneau de Florange, elle est tombée aux mains du Front National. Donc là, c'est une réalité, ce n'est plus simplement une projection pour l'avenir, c'est une réalité.
C'est le bilan du quinquennat.
Vous savez, ça fait quand même des années que ça a commencé. Quand on parle,
mais là, vous parlez d'électeurs de gauche.
Quand on parle
de
la destruction de la classe ouvrière, de la classe ouvrière, le fait qu'on abandonne les ouvriers, qu'on ne s'occupe plus d'eux, qu'on ne parle plus d'eux. Pierre Mauroy disait en 2002, le mot ouvrier, c'est pas un gros mot. Mais et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, je reviens à la campagne de la primaire, mais Arnaud Montebourg est le seul à parler des ouvriers, le seul à parler du monde du travail,
Benoît
le seul
Hamon
à parler
aussi
de l'industrie.
Mais c'est pas le seul.
le seul à prôner une vraie relance industrielle. Il dit aux ouvriers, voilà comment on va faire pour relocaliser des activités dans nos régions, et notamment dans toutes ces régions de l'Est de la France dont je viens, et qui ont été totalement abandonnées par les politiques depuis des années.
Vous pensez qu'ils y croient encore quand vous leur dites ça, franchement?
Ils jugent sur des actes. Moi, je demande de juger sur des actes, à la fois sur le bilan, par exemple, au ministère de l'économie, tout ce qui, voilà, son combat pour l'industrie. Le maire, l'ancien maire de Florange, Philippe Tarillon, qui a été battu, évidemment, pas de son fait, mais à cause de toute cette histoire. Il soutient Arnaud Montebourg. Il sait que c'est Arnaud Montebourg qui s'est battu, justement, pour les ouvriers de Florange, comme il s'est battu pour les ouvriers d'Alstom, comme il s'est battu pour ceux de Technip.
Dans cette primaire, celui qui représente la politique menée depuis 2012, c'est Manuel Valls. Et on écoute Manuel Valls, c'était lors du second débat.
J'ai revendiqué ma fierté, oui, d'abord d'avoir gouverné. Je suis lucide, à la fois bien sûr sur les réussites et sur les échecs. Mais quand on gouverne, il faut être fier. Il faut être fier de gouverner la France, qui est un grand pays.
S'il gagne la primaire, vous votez pour Manuel Valls ?
Bah écoutez, là pour l'instant, moi je veux qu'on vote déjà, que beaucoup de gens votent.
C'est embêtant comme
question.
Mais non,
mais parce que c'est voilà, on est dans la dernière ligne droite. Moi je me suis engagée. Non, mais j'ai déjà répondu 100 fois à cette question en disant que je respecte les règles.
Donc vous voterez pour Manuel Valls.
Mais je soutiendrai celui qui gagne, mais moi je veux que ce soit
Arnaud Manuel Valls.
Mais je veux que ce soit Arnaud Montebourg qui gagne.
Vous comprenez l'artificialité de la situation politique.
Mais je vous dis que je respecterai les règles. Donc ça veut dire, mais j'ai pas envie, simplement je vous explique, j'ai pas envie qu'il y ait une dépêche AFP qui juste cite Aurélie Filippetti, votera Manuel Valls s'il gagne. Voilà. Ouais. C'est juste pour cette raison-là.
Ça veut dire que vous l'assumez pas tellement.
Ouais, c'est mais ça. Si, vous mais simplement, ça, je ne veux pas que ça perturbe le discours que, par ailleurs,
faites,
je tiens sur le
programme. Vous le nez, quoi.
Je le ferai. Voilà. Point.
Quand vous dites je vais respecter les règles, est-ce que c'est pas aussi ce qui gêne ces électeurs qu'on a entendus en disant on va préférer les règles à la cohérence finalement d'un discours qui dit qu'il y a eu trahison et que celui qui représente cette trahison,
mais
on va finalement le soutenir.
Les électeurs, ils feront ce qu'ils veulent.
Si vous n'employez pas le mot trahison, peut-être que ce serait moins difficile. Vous mettez vous-même dans le débat des mots qui sont d'une violence telle qu'on n'imagine pas après, excusez-moi, je termine, que vous votiez pour quelqu'un qui représente la trahison.
Mais vous savez, j'ai parlé de trahison par rapport aux engagements du Bourget. Bon, c'est pas un jugement personnel. C'est, voilà, par rapport à certains engagements. Et c'est le mot que l'on entend dans la bouche de nos électeurs. Donc moi, je m'en fais le porte-parole.
Très bien.
Mais par ailleurs,
bien sûr. Mais du coup, ça a des conséquences.
Mais
que vous vous en fassiez la porte-parole, c'est votre choix.
Il y a aujourd'hui les électeurs qui veulent aller voter à la primaire dimanche. Ils auront le choix, par ailleurs. Ils peuvent faire leur choix au premier tour de la primaire, ce dimanche, entre 7 candidats. Ensuite, c'est à eux, ils feront leur choix en conscience pour le deuxième tour de la primaire. Et puis ensuite, parce que c'est quand même important, faut rappeler que les élections, ça ne s'arrête pas le 29 janvier. Après, il y a une élection présidentielle.
Alors justement,
et
concernant
c'est là...
l'élection présidentielle, ils auront aussi le choix d'Emmanuel Macron. Et on peut dire ce qu'on veut. Ça marche pour l'instant, Emmanuel Macron. On l'écoute, on en parlera après.
Toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui à droite et qui vous disent vouloir y rester, mais ne pas s'y retrouver. Toutes celles et ceux qui, à gauche, doutent et ne s'y retrouvent plus. Ne cédez rien au discours du repli. Venez retrouver le mouvement de l'optimisme volontaire.
Voilà, ce mouvement de l'optimisme volontaire, comme il dit, ça séduit à gauche. Il est de gauche, Emmanuel Macron ?
Non, pour moi, il n'est pas de gauche, très clairement. Voilà, mais... On parlera peut-être...
Les droites.
Parce qu'il faut regarder les quelques propositions qu'il a faites, et surtout tout ce qu'il avait dit avant de se lancer dans cette campagne. Toutes les propositions, c'était supprimer l'ISF, libéraliser le travail, c'est quand même lui qui a inspiré la loi El Khomri, voilà, bon. Donc, c'est un ensemble de... Il avait dit qu'il fallait, en gros, travailler davantage pour gagner
Fillon
presque
Macron,
moins.
C'est pareil ?
Mais non, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est pas le débat. Aujourd'hui, quel est le candidat de gauche choisi au primaire qui va pouvoir pouvoir affronter François Fillon et Marine Le Pen, qui va pouvoir montrer les limites d'Emmanuel Macron.
J'ai une autre réponse
dans
que la
vraie présidentielle. Non, mais il y a quand même une vraie question. Il y a une question vraiment.
Je vous dis Jean-Luc Mélenchon.
D'autorité.
Je vous réponds.
Eh bien,
Jean-Luc
il faudra
Mélenchon.
Discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Faudra discuter
parce
avec
que le créneau de la trahison. Que vous avez, le drapeau de la trahison que vous avez pris, il le tient très bien, Mélenchon, le drapeau.
Mais de toute façon, il faudra discuter avec Jean-Luc Mélenchon,
il dit,
comme
je veux pas
avec
discuter,
Yannick Jadot.
Il dit « je veux pas discuter ».
Mais ses électeurs, et puis les gens qui le soutiennent, ils auront envie de discuter. C'est pas une affaire individuelle, c'est pas une aventure personnelle, une élection présidentielle. Ça engage la vie de millions de gens derrière.
Ceci dit,
donc qu'est-ce qui va se passer le lendemain de la primaire? Ben, si c'est Arnaud Montebourg le vainqueur, il ira discuter avec Jean-Luc Mélenchon et avec Yannick Jadot des convergences
sur le
programme.
Mais pas avec Emmanuel Macron.
Mais non. C'est mais il, non, il faut quand même qu'il y ait une famille qui soit unie. Mmh. Moi,
il est curieux d'entendre de votre part, évidemment, Aurélie Filippetti, puisque vous avez été au gouvernement, que Emmanuel Macron n'est pas de gauche. Il a conseillé pendant 2 ans et demi le président de la
République.
Avec
les conséquences qu'on sait.
Ah oui,
bah justement, c'était le conseiller en matière de politique économique.
Il n'est pas de droite non plus. Donc,
mais c'est lui qui a, c'est lui qui a conseillé cette politique économique
donc,
qui, nous Hollande, dans un mur,
plus,
qui nous a mené dans un mur.
Vous comprenez que les électeurs n'y comprennent plus rien.
Bah écoutez, moi je crois que les électeurs sont très intelligents.
Et que ça affaiblit le Parti Socialiste.
Moi
oui,
je crois que les électeurs sont très intelligents.
Je vais dire les choses autrement.
Et qu'ils feront leur choix.
Que c'est l'ensemble
en toute
des socialistes qui
et
seront.
Et en jugeant sur des vrais engagements, sur des vraies propositions.
Bien sûr, c'est l'ensemble des socialistes qui seront sanctionnés parce que c'est un peu le bazar.
Eh bien, nous verrons, Jean-Michel Apathy. Mais la question qui se pose dimanche, c'est la question de quel sera le candidat qui a, dans son parcours, dans son discours, dans son programme, la capacité d'affronter,
vous
de dire non.
Dit, oui.
À la France de rupture sociale que propose François Fillon, à celle de haine et de repli qui est incarnée par Marine Le Pen, et à celle du libéralisme à tout craint qui est représentée par Emmanuel Macron.
Alors,
voilà, qui sera capable de tenir la tête, face à ces puissances-là.
Alors une phrase nous a bien fait rire ce matin dans la presse, elle est attribuée à François Fillon, ses amis hier lors d'une réunion lui ont dit « François, tu devrais t'inquiéter de la montée d'Emmanuel Macron » et François Fillon a cité Jacques Chirac « Macron, ça m'en touche une, sans m'en faire bouger l'autre, eh ben, bravo Monsieur Fillon, continuez comme ça ». Un commentaire, Aurélie Petit?
Aucun, franchement.
Okay.
Ce genre de phrase, ce virilisme-là, enfin bon.
Le machisme n'est pas mort.
Bon, c'est du virilisme plus que du machisme. D'accord. Je pense qu'il faut dépasser ça.
On va parler proposition dans un instant. L'info, 8h50, c'est Victor Maté.
Avec les conseils de Barack Obama à son successeur en matière de politique étrangère sur la Russie ou bien le conflit israélo-palestinien, c'était la toute dernière conférence de presse du 44e président des États-Unis. Donald Trump, lui, sera investi demain, vendredi 20 janvier. Au Mali, un groupe lié à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, revendique l'attentat suicide de Gao hier matin. Au moins 60 morts dans un camp militaire. L'attaque visait à punir des groupes coopérant avec la France. 3 mois de prison avec sursis, 105 heures de travaux d'intérêt général, la condamnation du jeune homme de 18 ans qui a giflé Manuel Valls, c'était mardi à Lamballe en Bretagne. Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, ils étaient tous en meeting hier soir. Le premier tour de la primaire de la gauche, c'est dimanche. 3e et dernier débat télé ce soir pour les 7 candidats. Et puis à Melbourne, aucun perdant chez les Français cette nuit. Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon et Caroline Garcia, tous qualifiés pour le 3e tour de l'Open d'Australie de tennis. En ce moment, Benoît Paire mène un 7-0 face à l'Italien Fognini.
Aurélie Filippetti, invité de France Info jusqu'à 9h, Gilles Bernstein.
Oui, on a aussi parlé cannabis dans les débats, on a parlé d'hypocrisie. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Benamias.
40 ans d'hypocrisie. 40 ans d'hypocrisie sur le nombre de festivals qui existent en France où la consommation de cannabis et ses dérivés est absolument totale. Nos forces de l'ordre, notre justice a autre chose à faire que de s'occuper de petits dealers et de petits fumeurs.
Alors l'ancienne ministre de la Culture, elle est d'accord, on fume dans les concerts?
Sans doute certaines personnes, mais pas tout le monde quand même. Et donc je pense que c'est pas forcément le sujet majeur de l'élection présidentielle. Il y a une méthode toute simple pour régler cette question, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est d'organiser ce qu'on appelle une conférence citoyenne, une conférence de consensus, où on associera par exemple la Commission nationale d'éthique, il y a un nouveau président. Mais ce sont des gens qui sont capables et dont le rôle est de concilier les exigences
Petit,
de santé publique.
C'est assez binaire. À la fin, soit on dépénalise,
non,
mais, soit on dépénalise
pas. Sauf que ce qui n'est pas binaire, c'est la manière. Non, ce qui n'est pas binaire, c'est la manière dont on va y arriver ou
d'accord,
pas.
D'accord, mais à la fin, il faut décider.
Et ce qui n'est pas binaire non plus, c'est comment on fait. C'est-à-dire, vous me parlez de dépénalisation, mais ce n'est pas de dépénalisation dont il est question là.
Légalisation.
C'est de légalisation. Vous voyez, il y a déjà une nuance qui est importante. Si on légalise, qui va distribuer le cannabis?
L'État. Il y a un projet de Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, extrêmement précis là-dessus.
Est-ce que
ce qui est intéressant, c'est Benamias qui dit
pardon,
c'est de l'hypocrisie. C'est vrai qu'on nage en pleine hypocrisie par rapport au cannabis, non?
Écoutez, le problème pour moi, il est
vous
simple, c'est qu'il y a eu une augmentation de 27% en 10 ans du nombre de personnes incarcérées, donc dans des maisons d'arrêt, pour détention, consommation et petit trafic de cannabis. Or, on sait très bien que les maisons d'arrêt sont déjà surpeuplées et ce n'est évidemment pas sur ces personnes-là qu'on devrait concentrer les moyens de la justice et de la police. Voilà. Donc comment on fait pour traiter cette question d'une manière qui soit là aussi réaliste? Parce que, pardon, mais on n'a pas du tout à clarifier, savoir si c'est dans les pharmacies, dans les bureaux de tabac, et qui va faire la production et la distribution de ce cannabis.
Mais
donc ça nécessite une réflexion un peu plus profonde que dans une campagne présidentielle.
C'est quand même le moment d'en parler. Ce qui avait d'intéressant dans le débat de la primaire, dans le deuxième débat, c'était le mot hypocrisie et puis le mot la prohibition.
C'est bien qu'on puisse sortir.
Tous les 5 ans, on revient à ces nuances, on se pose les mêmes depuis 30 ans, hein, dépénalisation ou légalisation.
On n'a pas organisé pendant ces 5 années de débat autour de cette question comme ça l'aurait mérité. Et je suis d'accord avec une chose, c'est que ça mérite tout à fait que la société française aujourd'hui accepte de réfléchir et de décider sur ça.
Deux questions à l'ancien ministre de la Culture. François Hollande, dimanche soir, a choisi d'aller au théâtre plutôt que de regarder le débat de la primaire. Il a été voir Michel Drucker, seul avec vous, je crois que c'est le titre du spectacle. Hein. Un commentaire de l'ancien ministre de la Culture pour ce choix culturel?
Écoutez, c'est dommage pour à la fois pour lui, mais surtout pour les électeurs de gauche de 2012.
C'est un peu humiliant. Hein.
Vous lui connaissiez un tel amour du théâtre?
Écoutez, moi je trouve que pour les gens qui ont voté pour lui en 2012 et qui aujourd'hui suivent les débats en se demandant quel est le candidat qui finalement pourra leur redonner de l'espoir dans la politique, je comprends qu'il y ait une forme un petit peu d'amertume.
Vous pensez pas qu'il a pu regarder en replay? C'est possible.
Peut-être.
En 2017.
Vous êtes optimiste.
L'Académie des Césars a indiqué hier qu'elle avait choisi Roman Polanski pour présider la cérémonie des Césars qui aura lieu à la fin du mois de février. Et plusieurs personnalités des associations s'émeuvent de ce choix, puisque Roman Polanski est inquiété aux États-Unis pour une affaire de viol. Elle avait été qualifiée comme ça par la justice américaine.
Plaidé coupable pour une relation illégitime sur
Absolument. Et la victime a demandé à la justice américaine de cesser ses poursuites, ce que la justice américaine ne veut pas faire. Que pensez-vous de ce choix de Roman Polanski, Aurélie Filippetti?
Moi, je pense que c'est la liberté absolue de l'Académie des Césars. C'est un très grand réalisateur. Et je pense que concernant cette affaire, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Et on ne peut pas à chaque fois relancer cette affaire parce que il y a quand même à un moment donné un problème. À chaque fois qu'on va parler de Roman Polanski, on va reparler de cette affaire.
On le
relancer
fait avec d'autres
nouvelle
personnes.
Polémique.
C'est parce que c'est un créateur qu'il ne faut pas.
Non, il n'y a pas d'exception
de
particulière pour les créateurs, mais là, en l'occurrence, c'est uniquement une cérémonie des Césars. Il ne faut pas non plus donner plus d'importance que ça n'en a à une cérémonie télévisée et professionnelle sur le cinéma.
Et il faut à un moment oublier, ne pas revenir à des...
Personne n'a oublié la
c'est
preuve.
C'est parce que ça s'est passé il y a 40 ans qu'il faut plus en parler.
Personne n'a oublié la preuve. Simplement, à un moment donné, il y a aussi un principe qui est celui, cette personne-là, elle vit en France et c'est un créateur. Il va dans une cérémonie concernant le métier qu'il exerce, c'est-à-dire celui de réalisateur. Donc à un moment donné, qu'on le laisse présider cette cérémonie. Encore une fois, ne donnons pas plus d'importance que ça à cette cérémonie.
Et donc vous vous trouvez là en distance sans doute avec des gens avec qui vous avez mené beaucoup de combats par le passé sur ce terrain là, mais nous verrons d'ici à la fin du mois de février, sans doute on reparlera de cette désignation de Roman Polanski par l'Académie des Césars. Il y a souvent des problèmes entre les médias et les hommes politiques. Illustration dimanche sur le plateau de la primaire entre Arnaud Montebourg et Laurence Ferrari.
Vous résistez à la pression des puissants, monsieur Montebourg?
Il y a même une chaîne.
Vous résistez toujours à la pression des puissants, monsieur Montebourg?
Votre chaîne, madame Ferrari, monsieur il y a même Montebourg. Le propriétaire de votre
Tenez toujours
chaîne
parole.
Qui a, est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme.
Alors, Laurence Ferrari lui a répondu que la chaîne existait toujours et qu'elle en était la preuve vivante sur le plateau. Vincent Bolloré, c'est un personnage qui fait du mal aux médias ou qui sauve des médias? Quel est votre point de vue?
En l'occurrence, il fait
Philippe
beaucoup de mal aux médias. Il fait aussi beaucoup de mal au cinéma, puisque on parlait de cinéma, puisque Canal+ quand même est en grande difficulté aujourd'hui. Et c'est la chaîne qui finance le plus le cinéma français. Mais surtout, il fait du mal à l'indépendance journalistique et puis à l'indépendance des médias. Je rappelle que cette grève à iTélé a duré 31 jours, qu'elle s'est soldée par plus de 95 départs de jeunes journalistes, de talents, 80 permanents et une quinzaine de CDD et de pigistes, ces jeunes journalistes, ils ont vécu finalement une forme de casse sociale. Vincent Bolloré a brisé cette grève parce qu'il a brisé cette volonté tout simplement de ces journalistes de dire non et de dire qu'ils avaient une certaine conception, une certaine éthique de leur métier. Donc c'est ça aussi le mur des puissants. Et c'est pour ça qu'il faudra faire une nouvelle loi pour mettre un terme à cette concentration dans les médias.
C'est dit,
et pour soutenir l'audiovisuel public, puisqu'on est sur France Info,
voilà.
Et bien,
France Info, la radio.
Faut continuer de soutenir et d'écouter l'audiovisuel public.
France Info, la radio, qui a enregistré un très, très bon résultat d'audience ce matin. Nous en sommes très heureux et nous vous en remercions. Merci Aurélie Filippetti d'avoir accepté notre invitation.
Et pour ça, l'info revient dans un instant.